Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
C'est samedi, il est 11h passé de quelques minutes et comme chaque samedi à pareille heure sur Radion, le moment est venu de retrouver votre émission littéraire jusqu'à midi. En effet, c'est Wagon Livre. Nouvelle invitée en ce samedi 14 février, jour de la Saint-Valentin. Cher Didier Cornaille, bonjour.
Bonjour.
Alors Didier Cornaille, nous avons le plaisir de vous recevoir. Il y avait tout de même 2 ans que vous n'étiez pas revenu devant notre micro.
J'ai pourtant sorti un roman l'an dernier.
Et oui Didier.
Ben oui, mais les choses ont ainsi.
Alors effectivement, en 2024, il y a eu La Sucette Verte. Il y a eu une réédition d'un livre merveilleux sur tous les compagnons à quatre pattes, chevaux, chiens.
Les compères.
Les compères. Délicieux, délicieux texte.
D'autant plus que c'est pas du roman, c'est pas de la fiction, hein, c'est de l'authentique, ça.
C'est de l'authentique, c'est totalement. Didier Cornaille qui rend hommage à son
hommage,
cheval.
Je sais pas, mais je raconte mon quotidien au milieu de ces animaux, parce que depuis un temps, j'avais toujours des animaux autour de moi, et ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs, mais qu'est-ce que j'en garde de bons souvenirs?
En tout cas, c'est très émouvant à lire. Oui. C'est un bel hommage à ces animaux qui nous accompagnent, qui partagent nos joies, qui souffrent eux aussi.
Qui savent nous jouer des tours.
Voilà, et qui parfois meurent et nous laissent et dans
oui,
la
oh
peine.
Oui, alors.
Hein, Didier, donc, je me rappelle.
Et encore, je ne raconte pas tout.
Je me rappelle ici, dans cette maison où vous habitez en Saône-et-Loire, à
oui,
Anneau,
oui.
De César, votre
oui,
chien,
oui, oui.
Très charmant, qui n'est plus de ce monde non
oh,
plus.
Oh non, ça fait 2 ans qu'il a disparu, César.
Alors, il y a la petite chatte Rosa, vous n'avez pas repris de chien?
Non.
Pourquoi? Pourquoi donc?
L'âge, mon cher ami. Si je casse ma pipe maintenant, moi, qu'est-ce qui va devenir, ce chien? Voilà. Des questions comme ça, j'ai préféré ne pas en prendre. Comme j'ai plus de chevaux, bien sûr, depuis longtemps.
Puisqu'on parle d'animaux, vous l'avez bien connu, la Dijonnaise Lucette Devine,
oh,
qui avait...
Bien sûr, une tripotée de chats.
Plus d'une dizaine de chats.
C'est ça, oui.
Mais elle s'était arrangée par voie un peu
oui,
testamentaire
sais, oui.
Pour savoir où chaque chat allait être placé si
oui.
Elle venait à disparaître.
Oui, je suis pas passé par là. Bon, ben ça, c'est une... Ça se discute, même avec moi-même, je le discute pas. C'est un fait.
Didier, vous avez toujours votre cheval, même si vous ne le montez plus?
Non, enfin, j'ai encore un cheval, mais qui est en pension chez un agriculteur du coin. J'ai plus de chevaux, quoi.
Alors, donc, je rappelle, 2024, La Sucette Verte, Les Compères en 2024. L'an dernier, Le Jardin de Cyprien, chez votre fidèle et loyal éditeur Les Presses de la Cité, dans la collection Terre de France. Et puis, sorti il y a 2 jours, le 12 février dernier, toujours aux Presses de la Cité, donc votre dernier roman, Les Pierres s'en souviennent. Didier, un roman chaque année, c'est le rythme.
C'est le rythme auquel j'essaye de me tenir, puisqu'au fond, j'ai plus que ça à faire maintenant, vu mon grand âge. Alors autant s'y tenir, puis un jour j'arrêterai, mais tant que j'y suis, hein, et celui de 2027, celui de 2028 sont prévus, après on verra.
Ils sont rédigés.
Rédigés, oui.
D'accord. Et puis, alors c'est pas le texte qui nous occupera aujourd'hui dans notre émission, mais on peut se réjouir d'une belle réédition. C'est les éditions de Vent du Morvan, ce magazine associatif.
Faux. Ah. Vent du Morvan n'est pas un éditeur. Vous dites les éditions. Vent du Morvan est un publie une revue. C'est tout.
Oui.
Ils sont pas éditeurs, mais ils sont collés tout de même. Et je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont fait un très très beau boulot.
Et donc ça s'intitule Autun, toute une histoire. Oui. Initialement paru il y a plus de 20 ans.
Oh, en 2004, oui. Donc plus de 20 ans, 22 ans, 23 ans.
Aux éditions de l'Armançon.
Aux éditions de l'Armançon. C'était un peu une gageure, un défi qu'on s'était jeté avec Rémi Rebérotte, qui à l'époque était simple conseiller municipal d'ailleurs à Autun, de publier quelque chose qui synthétise un peu l'histoire assez extraordinaire de la ville d'Autun. Et bien sûr, si un éditeur a marché dans le coup, C'était l'Armançon à l'époque, Gérard Gautier, qui s'est empressé de marcher. Cette revue, donc, parue en deux, cette brochure, dirons-nous, est parue en 2024, a eu un gros succès à l'époque. C'est pas modeste de ma part de le dire, mais il faut le reconnaître. Ça tient beaucoup à l'éditeur aussi, hein. Et puis, elle s'est épuisée. Longtemps après, l'idée s'est développée que ce soit Vendu Morvan qui se jette dans l'aventure de rééditer ça, ce qu'ils ont fait et très bien fait.
Très beau travail.
Ah oui, un très beau travail.
Vraisemblablement encore un grand succès.
Pour l'instant, il marche très fort.
Réédition Autain, toute une histoire sous la plume de Didier Cornaille, avec en partenariat avec Vendu Morvan.
Oui, oui.
Qui redonne vie à des textes non pas oubliés, mais qui ne se trouvent plus dans le commerce.
Ils ne sont plus dans le commerce, qui sont épuisés.
Alors,
en termes professionnels.
Didier, dois-je vous présenter aux habitués de notre émission
littéraire ? Alors là, c'est vous qui voyez, mais enfin, je pense qu'on commence un peu à se connaître.
Alors, on ne parle
avec
pas,
le temps.
On ne parle pas de l'âge.
Ouf. Allez, on fait l'impasse.
Didier, vous êtes coquet sur l'âge ?
Non, c'est pas du tout une coquetterie, c'est une réalité qu'il faut bien assumer. Hein.
Alors, vous êtes ancien journaliste, vous êtes toujours écrivain, vous êtes natif d'une famille de paysans du nord de la France, vous êtes né à Cambrai ?
Non, oui, je suis né à Cambrai, mais la ferme de mon père était à Clary, qui est un petit village au sud de Cambrai. Et j'ai passé les 20 premières années de ma vie.
Alors, il n'y a pas eu...
Et je garde beaucoup d'attachement pour le Nord, même si je suis dans le Morvan maintenant depuis 75, 70 quelques années. Hein.
Ça fait plus d'un demi-siècle que vous êtes à Hanau.
Oui, oui. Mais ça n'empêche que pour moi, le Nord, ça reste... Comment je vais dire ? Ça reste ma base. Et je m'y réfère assez souvent.
Et comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de transmission de la ferme parentale ? Non, il y avait quelqu'un d'autre.
Le contexte s'y prêtait pas. Mon père n'était pas propriétaire de la ferme, ce qui compliquait beaucoup les choses. Je vais pas rentrer dans les détails. Et puis, c'était à une époque où un fils ne reprenait pas systématiquement la ferme du père parce que ça dégringolait très fort. Il n'a jamais été vraiment question que je la reprenne, cette ferme. Et je crois qu'au fond, j'ai jamais introspecté cette idée que j'allais la reprendre. J'ai jamais reprise. Et au fond, je le regrette. Je le regrette beaucoup. La ferme d'Iris, pour moi, c'est le centre de ma vie. J'y suis né. Mais en même temps, je ne le regrette pas parce que je sais que ça n'aurait pas été réaliste.
Alors, vous avez pris le chemin d'une profession intellectuelle. Vous avez fait d'autres choses avant que d'être journaliste.
Oh, pas grand-chose. Non, je suis venu rapidement. Je suis rentré au Figaro Agricole. J'avais quoi ? J'avais 22 ans, je crois, chose comme ça. J'étais un galopin.
Et puis, vous avez travaillé aussi, vous avez été correspondant pour le journal Le Monde sur les questions agricoles.
Alors, j'ai commencé ma carrière, fort heureusement pour moi, par un coup de chance, hein, au Figaro Agricole, sous l'égide d'un personnage que j'aime à citer parce que c'était un personnage un peu hors du commun, mais qui m'a eu à la bonne et qui m'a beaucoup briefé, qui m'a amené à la dure. C'était Joseph Bosson. Et jusqu'à la disparition du Figaro Agricole en 74, si je me souviens bien. Et là, j'ai pas un coup de tête familial. On est venu s'installer dans le Morvan en 75. Qu'est-ce que je suis venu m'installer dans le Morvan ? Sauriez-vous me le dire, vous ? Et ben j'y suis toujours. Et c'est là où je suis devenu journaliste indépendant, comme on disait à l'époque. Ça n'existe plus guère, cette forme de journalisme. Et j'ai accumulé les titres. J'étais correspondant. Alors, je travaillais beaucoup pour les journaux régionaux, Le Progrès, Les Dépêches et d'autres journaux régionaux, Marchés agricoles. Pas régional, c'est national, mais l'exploitant agricole de Saône-et-Loire cherchait le titre, pour qui j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, qui m'ont donné une connaissance du terrain, m'ont permis d'acquérir une connaissance du terrain dont je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup qui l'avaient comme moi à l'époque. Hein. Et en même temps, j'étais correspondant de journaux nationaux. Alors, j'ai cité Marchés agricoles, qui en était un, mais aussi Le Monde, dont j'ai été correspondant pendant 10 ou 15 ans.
Oui.
Ça, c'est le souvenir un peu du top, vous savez, des sommets. C'est vrai, et j'y ai gardé beaucoup d'amis, d'ailleurs.
Rappelons que le premier roman que vous avez écrit, c'était aux éditions de l'Armançon, roman qui a pour titre « Le vol de la buse » qui a été réédité il y a quelque temps par les presses de la cité.
Oui.
Roman qui vous a valu un très beau prix que Henri Vincenot avait obtenu
Moi, je l'ai eu en 92,
je crois.
Et Vincenzo, si vous voulez, en 72, je crois.
Avec 20
mais je dis peut-être de bêtises, je ne suis pas sûr de mes.
Et vous êtes aussi.
Le prix, Sully-Olivier de Serre, faut le citer tout de même.
Tout à fait. Et vous êtes aussi l'auteur de nombreux guides de randonnée.
25.
De carnets de voyage et d'ouvrages de découverte des pays de France.
Pas seulement de France d'ailleurs, mais c'est, je sors du roman. Là, c'est plus du tout du roman.
Alors Didier, on va marquer un premier intermède musical. On se retrouve juste après pour parler du nouveau roman sorti il y a 2 jours en librairie aux presses de la Cité et qui a pour titre « Les pierres s'en souviennent, c'est Wagon Livre » sur Radio Nen. Nous sommes ensemble jusqu'à midi.
J'ai le vertige, tu me prends la main. D'ici là, terre est loin. C'est si grand que mon cœur est plein. Je sais pas si je vais mal ou bien. On nous dit que le ciel est sans fin. J'avoue, j'y comprends rien. Je suis seulement du genre humain. Je sais pas ce que je ferai demain. Et nous, assis là sur la lune, nos cigarettes fument, des cratères et des dunes. Et sous, assis là sur la lune, nos cigarettes fument, nos chagrins se consument. Serre-moi jusqu'au prochain soleil. Serre-moi juste assez que je veille. La nuit portera ses conseils. Et vu d'ici, la nuit n'est pas pareille. Serre-moi jusqu'au prochain soleil. Satellisé sans sommeil. En veille jusqu'au prochain soleil. En veille jusqu'au prochain soleil. Dans ton repère anti-narcisse, tu m'enlèves et me hisses. Et de là-haut tout rapetisse, mes peurs et mes cicatrices. C'est doux, assis là sur la lune. Penser l'amertume, nos pensées ne font qu'une. Et sous, assis là sur la lune, à sceller nos fortunes, nos chagrins se consument. Serre-moi jusqu'au prochain soleil. Serre-moi juste assez que je veille. La nuit portera ses conseils. Et vu d'ici, la nuit n'est pas pareille. Serre-moi jusqu'au prochain soleil. Satellisé sans sommeil. En veille jusqu'au prochain soleil. Ah, serre-moi jusqu'au prochain soleil. Serre-moi juste assez que je veille. La nuit portera ses conseils. Et vu d'ici, la nuit n'est pas pareille. Serre-moi jusqu'au prochain soleil. Satellisé sans sommeil. En veille jusqu'au prochain soleil. En veille jusqu'au prochain soleil. En veille jusqu'au prochain soleil.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
À l'instant, c'était Madame Monsieur qui interprétait le titre Prochain soleil. Lui aussi rayonne en librairie avec son nouveau roman intitulé Les pierres s'en souviennent. C'est notre invité Didier Cornaille qui en est l'auteur. Roman disponible aux presses de la Cité. Didier, on a replacé les éléments biographiques qui vous concernent. Est-ce que vous pouvez donner le synopsis de ce nouveau roman sorti il y a 2 jours en librairie ?
En 3 mots comme ça, c'est pas facile. Mais les pierres qui s'en souviennent, c'est que pour qui habite un village, personne là seront d'accord avec moi, il n'existe pas de village qui n'ait pas quelque part une ruine, un vieux souvenir auquel plus personne ne pense, mais auquel tout le monde tient énormément. Les ruines de châteaux, dont on appelle ça un château, on ne savait même pas ce que c'était. Ça a disparu, celui-là, celui dont je parle, il a disparu depuis 7 siècles. Mais c'est là, c'est cette constance, cette présence permanente de ces ruines qui fait leur importance, qu'on le veuille ou non, elles sont la mémoire du pays. Et il faut surtout pas y toucher parce qu'une mémoire, on n'y touche pas.
Alors, Didier Corneille, vous habitez à Anneau, en Saône-et-Loire. Anneau, je situe tout de même pour les auditeurs de Lyon, c'est à 20.
Il y en a qui ne connaissent pas.
Il y a combien? Il y a 700 habitants?
800.
Hein, 800 habitants. On est à plus de 400 mètres d'altitude.
Aux alentours, oui. Plus ou moins, selon l'endroit.
Anneau se situe à 22 km d'Autun et à 18 km de Château-Chinon. Alors, Autun, bien sûr, c'est la Saône-et-Loire. Château-Chinon, c'est la Nièvre.
Eh oui.
Hein? Est-ce qu'il y a sur les hauteurs d'Anneau, puisque oui. Anneau est dans sorte de cirque. Est-ce qu'il y a un vieux château, des ruines
justement.
Sur les sommets d'Anneau,
Didier Corneille ? Tout le monde connaît le château de Roquion, tout le monde le connaît. Il est là-haut, sur une hauteur. Il a la particularité qu'il devait avoir une gueule, quelque chose d'extraordinaire. Il est vraiment sur un sommet. Dans le Morvan, les sommets, c'est toujours relativement modeste. Enfin, tout de même, une hauteur qui domine un village. Donc, ce village devait être complètement dominé par ce château. Esthétiquement, ça devait avoir une allure que nous estimons fantastique. Pour les gens du pays, c'était l'autorité, c'était les hommes forts qui étaient là-haut. Donc, l'image était peut-être pas aussi positive, hein. Mais il existait là-haut. Il a disparu depuis au moins 7 siècles. On ne connaît pas son histoire. On parle du château. Est-ce que c'était un château? Est-ce que c'était une forteresse? Est-ce que c'était simplement une grande demeure? Non, je pense que c'était tout de même, à voir les restes, il y avait des tours, des choses comme ça. Mais on n'en sait rien, en fin de compte.
Alors, ce sont de simples pierres, c'est un peu comme le château au-dessus de Château-Chinon, au Calvaire?
Eh ben, un peu, si vous voulez. Bon, au-dessus de Château-Chinon, ça a été passablement modifié. Mais c'est ça, tout de même. Ce sont ces ruines qui restent là, qui ont toujours été là, qui seront toujours. Et on s'aperçoit qu'elles suivent l'histoire du pays et elles sont la mémoire du pays.
Elles sont-elles accessibles?
Difficilement. Celles auxquelles je pense, en tous les cas, sur Anneau, il y a des chemins, hein, il y a plusieurs chemins, mais il faut les suivre.
Alors, c'est d'ailleurs ce qui arrive à votre héros Florent au tout début du roman. Lui, il randonne, il parcourt la France avec son camping-car. Il a vécu une certaine rupture sentimentale, le voilà seul, peut-être un peu libéré, et il profite de cette liberté.
Ah, libéré, oui, enfin bon.
Pour découvrir la France.
Voilà.
Et puis là, il s'arrête dans une commune. Alors, c'est une commune morvandelle de papier qui s'appelle La Rudelle.
Ouais. Ah bon?
Et là, à La Rudelle, il voit un chien. Un joli, charmant compère qu'il va suivre parce que le chien s'enfonce un peu dans...
Le chien, il vadrouille. Hein, il est en vadrouille. Du coup, Florent le suit. C'est drôle, il va au chien. Et par jeu, uniquement par jeu, il le suit. Et c'est comme ça qu'il tombe. Enfin, il tombe, façon de parler, parce que c'est tout en haut d'une côte très raide, dans la broussaille, etc. Il découvre ces ruines d'un château. Et en redescendant, il rencontre l'agriculteur voisin qui commence par lui dire « Avec votre camping-car, vous n'allez pas rester dans mon chemin, vous m'encombrez. » Puis après, ils discutent. Et l'autre lui raconte l'histoire du château à laquelle Florent s'attache beaucoup. Bon, alors, j'en dis pas plus, je vais tout raconter.
Enfin, il y a deux châteaux. Il y a le vieux château,
voilà.
Il y a les ruines, et puis il y a le château, la survivance, en fait, de Nobliot, qui est un peu déchu.
Oui. Bon, oui,
il y a une héritière
oui,
dans ce
les hobereaux, comme on disait jadis au 19e siècle. Hein. Et là, c'est le cas. Et d'ailleurs, ça fait référence à un autre de mes romans qui est paru dans les années... une vingtaine d'années, quelque chose comme ça, avec un lien de famille, de gens qui ont vécu cette chute finale dans la seconde moitié du 19e siècle. La chute finale de cette petite noblesse de village qui existait encore depuis la Révolution, puis là, elle s'est effondrée. Elle s'est transformée en noblesse d'argent qui est allée placer son argent au Creusot ou dans les mines du
dans
Creusot.
Dans les industries.
Dans l'industrie, etc. Donc, elle n'a pas déchu. Mais ils ont gardé leur pierre. Mais là, le château, il n'est pas en ruine. Oh, il n'y en reste pas grand-chose. Il a été abîmé. Mais il est toujours là. et vit dedans la dernière descendante de la famille des Obreau. Voilà, j'ai brossé le tableau, je crois.
Alors, la famille, ce sont d'Esternon. Les d'Esternon, et la jeune femme, c'est Agathe.
Ouais.
Mais alors, en fait, là où le village va être chamboulé, c'est le jour où un jeune homme parisien a envie de valoriser ses ruines.
Oui,
et alors ça, là, ça commence un peu, les esprits s'échauffent.
Oui, parce que c'est un petit peu partout comme ça. C'est un peu partout comme ça. Parce que moi, vous avez un Parisien pur jus qui décrète, on va réhabiliter le château. C'est-à-dire, dans sa tête, c'est le reconstruire. Alors, vous imaginez, d'abord, on sait même pas comment il était, le château. On n'a pas d'image réelle de lui. On en a imaginé. Mais dans la réalité, on sait pas comment il était. Et le reconstruire, c'est inconcevable. D'abord, vous imaginez ce que ça coûterait. Puis il faut, encore une fois, multiplier par le nombre de ruines comme ça dans tous les villages de France. C'est inconcevable. Et donc, on ne le conçoit pas. Parce qu'encore une fois, les ruines, en l'état où elles sont maintenant, c'est-à-dire quelques pierres les unes au-dessus des autres, et beaucoup de ronces, etc., qui les emballent, elles sont toujours la mémoire. On se souvient du vieux temps à travers le vieux château. Donc, on n'y touche pas. Mais vous avez toujours quelques farfelus qui cherchent à reconstruire.
En fait, ce qu'il faut comprendre en lisant ce roman, les pierres s'en souviennent, c'est que le vieux château, c'est quelque chose de mental,
oui,
c'est
oui,
une idée plus qu'une réalité matérielle.
Tout à fait. À la base, il y a une réalité, là, ces cailloux là, sur lesquels le chien se tient un peu en arc, avec un air narquois, en se moquant du gars qui l'a suivi. Mais bon, c'est là, il y a ces pierres. Mais en fait, ensuite, c'est dans la tête que ça se passe, c'est vrai. C'est très mental.
D'ailleurs, je cite un extrait du roman en parlant justement de ce vieux château. C'est une idée, le vieux château. On l'a dans la tête ou on ne l'a pas.
Voilà, on l'a
dans
la tête.
C'est l'idée que l'on se fait de notre passé, de ce temps long dont nous venons tous. Alors là, Didier Cornaille, je vous invite à développer cette idée du temps long, s'il vous plaît, cette notion particulière.
Extrêmement difficile. Le temps long, vous êtes au jour le jour chez vous, vous me dites, puis un jour vous vous retournez et vous apercevez qu'il y a une logique dans tout ça. Il y a ou il n'y a pas d'ailleurs une logique dans tout ça. Et le temps long, c'est ça. C'est, vous avez le temps quotidien, bref, qui passe comme ça, mais qui est cohérent avec le reste. Et où est cette cohésion? C'est quoi cette cohésion? Cette cohésion dans le temps, dans je cherche mon terme, dans la longueur du temps, dans la continuité du temps, voilà. Continuité du temps, c'est le temps long. C'est ça, le temps long.
Alors, justement, le roman met aussi en avant des thématiques qui vous sont chères. C'est toujours cette vie de la communauté de village. Vous parlez de communauté de village quand elle existe, parce que finalement, à un moment tout de même, je crois que c'est Florent qui dit le vivre ensemble, c'est pas évident, les gens ont du mal à vivre ensemble.
Toujours. Il y a une communauté de village, c'est-à-dire que ma famille, depuis X générations, elle est là, elle vit là, la tienne, même chose. Donc, il y a des liens qui se sont tissés, c'est vrai.
Enfin, il y a des inimitiés, des haines aussi,
J'allais dire, il y a des liens, mais des liens positifs, puis des liens négatifs. Dans les deux sens, ça, c'est certain. Mais il y a une unité d'existence, ceux qui sont d'anneaux, je dis d'anneaux parce qu'on est à anneaux, hein, ils sont d'anneaux, ils ne sont pas d'ailleurs.
Et alors, le terreau commun, il est quoi? Il est lié à l'histoire, à une fierté d'appartenir à cette
commune? En fait, qu'on se croisait dans la rue tous les jours et qu'on avait, quand on avait besoin d'un outil, on allait chercher chez le voisin, sont des choses extrêmement simples, extrêmement ténues au départ, qui lient ces gens-là, mais qui les lient. Les familles, je ne citerai pas de nom parce que ce serait gênant, mais je pense à des noms de gens, le nom, il est d'anneau, quoi. Ils sont attachés à anneau. Et alors, ils ont essaimé, bien sûr, ils ont essaimé pas mal, même dans les communes aux alentours, sinon plus loin. Mais il y a la base, et le jour où la base, elle disparaît, ou elle a un accident, ou elle... Quand je dis la base, c'est les plus vieux, c'est ceux qui sont un peu au centre de cette communauté. Et malheureusement, par les temps qui courent, souvent, il n'y a plus grand-chose autour. Hein. Et elles ont tendance à disparaître, ces bases.
Mais et ça, puis, il y a les plus jeunes qui sont contraints de tourner le dos à la communauté
qui
pour aller vivre ailleurs.
Tout à fait, qui vont voir ailleurs ce qui s'y passe et qui reviennent. Regardez, je prends mon cas, moi je me sens toujours de Clary, mon petit pays du Nord, que j'ai quitté. Je suis dans le Morvan depuis 75 et j'avais déjà quitté le Nord depuis longtemps.
Oui, mais le Nord, vous y retournez, c'est un pèlerinage affectif.
Oui, mais c'est ça, mais ce n'est plus qu'un pèlerinage. Attention, entre un pèlerinage et y vivre, il y a une sacrée différence. Hein.
Mais où sont vos racines actuellement?
Ah, question, où sont mes racines? Ben, moi, j'aurais tendance à dire qu'elles sont dans le Nord. Et elles le resteront.
Page.
Ce qui ne défait rien, mon attachement pour Hanau. Où je pourrais très bien aller vivre ailleurs. Non, j'irai pas vivre ailleurs qu'Hanau. J'y suis maintenant depuis longtemps et j'y resterai.
Même si à Hanau, vous êtes désormais très connu, hein, un demi-siècle que vous êtes installé ici à Hanau, en Saône-et-Loire, dans ce qui est tout de même le village des Galvachés.
Ouais. L'origine des Galvachés aussi.
C'est l'origine. Enfin, Hanau a ce passé qui fut prestigieux,
oui,
puis qui
fait,
et
oui.
Aujourd'hui,
mais il n'est plus là.
Il n'est plus là, mais là aussi, c'est un peu comme les ruines.
Mais
ça
oui,
fait partie
mais
du
ça
temps
fait
long.
Partie, voilà, ça fait partie du temps long, et ça fait partie de cet ensemble qui donne une identité à un pays. Et c'est ça le temps long.
Alors, on reviendra sur les thématiques de votre nouveau roman. Je rappelle, il est sorti il y a 2 jours. Il est donc disponible en librairie, c'est aux Presses de la Cité dans la collection Terre de France. Le roman a pour titre « Les pierres s'en souviennent ». Et là, Didier Cornaille, on va écouter un chanteur qui s'appelle, c'est Trio, et c'est l'hymne de nos campagnes. Je pense que c'est une virgule musicale qui va annoncer la conversation que nous allons reprendre juste après avec vous. Vous nous accompagnez jusqu'à midi. Aujourd'hui, samedi 14 février 2026, sur Radio.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux termes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les mannes, faut faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone.
Plus rien n'agite tes neurones, pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs, rien ne te retient, va vite faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas si tu n'as rien, et sois le premier à chanter ce refrain.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'une rivière,
écoute le couler de l'eau sur la terre.
Dis-toi qu'au bout, il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et compare-le à la race humaine, l'oxygène et l'ombre qu'il t'amène. Mérite-t-il les coups de hache qui le saignent?
Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Mais si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires.
J'aimerais pour tous les animaux
que tu captes le message de mes mots.
Car un lopin de terre,
une tige de roseau,
servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes.
Wagon Livre. votre émission littéraire.
À l'instant, l'hymne de nos campagnes par trio. Didier Cornaille est toujours avec nous en cette fin de matinée sur Radio Neu. Les pierres s'en souviennent, c'est le titre de son dernier roman paru aux presses de la Cité. Alors Didier Cornaille, on a parlé du temps long et dans le roman, vous avez parlé de cet agriculteur, il s'appelle Stéphane Bordier dans le roman. C'est celui qui houspille Florent parce qu'il a stationné son camping-car à un endroit qui ne convenait
pas. J'ai pas que ça à faire, moi.
Oui. Mais ce Stéphane Bordier, lui aussi, c'est un agriculteur qui se fait du souci sur son avenir. Comment survivre quand on est agriculteur et quand finalement, et ça c'est cette notion de cycle de la société, et vous l'expliquez dans le roman, en remontant finalement aux grandes transformations de la société rurale française, 19e siècle jusqu'aux années 1970, à peu près.
Avant, déjà, après les années 40, après la guerre, ça a commencé là. Mais on est encore dedans, où, qu'on le veuille ou non, l'agriculture, la production agricole, c'est difficile d'avoir un terme assez général, hein, n'est plus la production, ce qu'on tire de la terre, si vous voulez, hein, que ce soit brouté ou que ça pousse, hein, c'est plus du tout la même chose. Et quand on arrive à créer des exploitations qui ont tout d'usine dans les régions agricoles vastes et larges et ouvertes et des terres riches, ce n'est pas concevable. C'est pas qu'on ne veut pas le faire. C'est que ce n'est pas concevable dans des pays de terres acides, de terres pauvres, de propriétés extrêmement morcelées parce que ça n'a jamais été important. Alors il a fallu partager ça entre les descendants, etc. Et ils ont des tas de handicaps qui fait que ben, pour eux, le cycle est terminé. Il faut qu'un autre cycle s'ouvre derrière. Mais quel va-t-il être ?
Alors, la difficulté, ce sont aussi ces unités agricoles qui souvent, dans le passé, étaient des unités familiales, voire patriarcales.
Voilà, oui, il y a aussi cette évolution qui veut qu'un enfant, j'en sais quelque chose au fond, parce que c'est un peu mon passé, ne reste pas systématiquement à la ferme. Il va aller faire des études. Et ces études vont lui ouvrir des envies, des tentations, mais aussi des nécessités d'aller travailler ailleurs, etc. Ça va lui ouvrir le champ de la vie, tout simplement.
Oui, alors vous parlez de... Bien sûr, ça peut être un choix, ça peut être aussi une obligation, parce que le métier des parents ne peut plus permettre de vivre, malheureusement.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est la notion de cycle. Où vous expliquez, par exemple, enfin, Stéphane Bordier, il est très lucide, cet agriculteur, face aux difficultés qui sont les siennes. Il tient à sa terre. Mais ça pose pour lui le problème de la transmission.
Voilà.
Ça, c'est un vrai problème.
Et il tient à sa terre, comme vous dites, mais il veut pas que son fils reprenne.
Et pourtant, le fils...
Le fils n'a qu'une idée, reprendre.
Il veut absolument
il va reprendre
à son père avec fierté.
Ben, je me souviens des hurlements de mon... Hurlement, le terme est trop fort, mais de l'opposition formelle de mon père, quand je disais tout gamin, mais je ne l'ai pas dit longtemps, que je reprendrais. C'était un nom formel. Et assez dur. Au début, je ne comprenais pas. Bon, j'ai fini par comprendre que pour des tas de raisons, c'était pas concevable. Mais pour eux, c'est dur de prendre cette position. Alors que eux ont choisi. Mon père venait d'un milieu bourgeois et commerçant. Il n'avait rien à faire dans l'agriculture. C'est lui qui avait choisi l'agriculture. Ce qu'il ne regrettait pas, je crois, voire le dire. Mais en même temps, il savait très bien qu'il devait l'interdire à son fils. C'est pénible comme situation. Faut le reconnaître, c'est un blocage pénible.
L'agriculteur que vous mettez en scène dans votre roman, Stéphane Bordier, se pose pour lui aussi le problème de l'avenir. Alors, pour lui, encore que lui, il dit on finira ainsi, il est résigné. En revanche, il est beaucoup plus inquiet
pour son fils
qui s'appelle Fred. Et il pose une question qui est touchante, c'est celle de l'identité. Qu'est-ce qu'on est, nous, maintenant ?
Mais question, qu'est-ce qu'on est ? Dans notre système, qu'est-ce qu'on est ? Stéphane, à une époque, représentait un personnage important du village. Est-ce qu'il est encore un personnage important ? Non. Il y a beaucoup d'autres choses qui l'ont qui l'ont dépassé. Et ce camping-car, ce petit camping-car, hein, tout modeste, qui vient se garer dans son chemin, c'est ça qui l'horripile. C'est que ce sont ces choses-là qui prennent de la valeur maintenant. C'est le touriste. C'est ces petits engins qui... Alors que lui, il est resté les deux pieds dans la bouche de vache. Hein? Même si c'est son état qui réfléchit un peu, bah, ça m'empêche, il en est resté là. Et c'est ça qui l'exaspère. C'est pour ça qu'il l'envoie bouler. Bon, par méchanceté, bien sûr.
Et il dit, à un moment, on n'en a que faire de nos fermes perdues au milieu des bois. Or, Didier Cornaille, dans un essai paru il y a 20 ans, qui reste d'une grande actualité, essai intitulé « Le réveil des villages », qui n'a pas été réédité, mais qui avait paru donc aux éditions de l'Armançon avec le soutien du Parc naturel régional du Mauvent et du Conseil régional de Bourgogne à l'époque. Mmh. Dans cet essai, le réveil des villages, Didier Cornaille, vous, alors bien sûr, vous écrivez tout le mal que vous pensez de la data, ça crie d'orfraie quand on parle de la data, et surtout, vous expliquez qu'un économiste, au début des années 60, le général de Gaulle est alors président de la République, il y a un économiste qui s'appelle Jacques Rueff, qui dit au général de Gaulle, ou lui fait comprendre, ainsi qu'à son gouvernement, qu'il faut diminuer le nombre des agriculteurs en France. Et ça a été fait, d'une certaine manière.
Oh là là, ça a été fait de façon, je dirais pas drastique, non, allons, n'exagérons pas, mais c'était fait de façon énergique, et on ne pouvait pas en faire l'économie. On devait en passer par là. C'était plus supportable d'avoir ce nombre de petits agriculteurs qui coûtaient horriblement cher à la collectivité, tout en ne vivant pas. On ne pouvait pas en passer par là. Et il fallait que leurs enfants fichent le camp à la ville. J'en suis un exemple.
Le problème, aujourd'hui, en 2026, Didier Cornaille, on a l'espace rural qui représente 80% du pays.
En espace, oui.
Et puis, on va dire les agglomérations, 20%.
Globalement, oui.
Est-ce qu'on va pouvoir faire revenir des gens à la campagne? Non, c'est une utopie.
Pourquoi?
Je ne sais pas.
Moi non plus.
Vous êtes plutôt confiant pour le devenir des campagnes, ou moins maintenant?
Je pense que la notion de distance a fondu. Hein. Qu'on soit à 200 km de Paris, ce fut un problème, ça ne l'est plus. Parce qu'on a l'ordinateur, parce qu'on a Internet, etc. etc. Je ne vais pas chercher les raisons, elles sont multiples. En plus de ça, quand on y regarde d'à peu près, on s'aperçoit que beaucoup, je ne donnerai pas de proportion, mais beaucoup des métiers que l'on pratique nécessairement en ville sont des métiers de service qui ne nécessitent pas une présence physique, surtout maintenant avec les engins qu'on a au niveau électronique. Par conséquent, on n'a pas besoin physiquement. Et d'ailleurs, on le voit par le succès du télétravail. Combien de gens restent à travailler chez eux maintenant, s'en trouvent très bien? Et leur patron s'en trouve très bien parce qu'il leur coûte moins cher, ils récupèrent de l'espace, etc. Et donc, pourquoi rester là-haut?
Mais ça concerne une catégorie professionnelle bien définie.
Mais très large.
Mais par exemple, faire revenir de l'artisanat dans les campagnes.
Ah, ça, là, on verra. Ça. Non, non. D'abord, il faut qu'il y ait des gens qui puissent y vivre. Je pense que les services, la notion de service, qui est une notion de plus en plus importante dans notre économie. Je vous demande pardon. Les services offrent d'énormes possibilités en la matière. On va faire revenir des tas de gens qui n'ont pas besoin d'être physiquement en ville pour pratiquer leur métier.
Oui, mais alors
quand ces gens-là seront là, on va commencer à avoir d'autres besoins, notamment par exemple d'artisans, de commerçants, etc. Mais il faut d'abord qu'il y ait ce premier retour d'une vague de gens qui n'ont pas une nécessité absolue d'être en ville.
Dans le village de votre roman, Les pierres s'en souviennent, la Rudelle, l'avenir s'annonce peu réjouissant.
Non, peu réjouissant. Alors, c'est toujours la même chose, tant qu'on raisonnera...
Si, il y a une auberge et une épicerie.
Oui, à peu près tout.
Et à nous, il y a beaucoup mieux.
Oh, beaucoup.
Il y a une école, primaire.
Simplement, on vient de rouvrir à la boulangerie qui était restée fermée pendant 2 ans, si je me souviens bien. On a mesuré l'impact que ça a eu sur l'état d'esprit de la population, sur le énorme, énorme. Bon, tant qu'on en restera avec un schéma où pour être à la campagne, il faut être paysan ou travailler dans la paysannerie, pour être à la ville, il faut travailler dans un bureau, on en restera là. Quand on réalisera que beaucoup de ces gens qu'on oblige à monter en ville, j'allais dire monter à Paris, vous avez remarqué, j'ai le surpris de la mine, monter en ville. Pour aller travailler dans des bureaux, ils pourraient travailler aussi bien depuis chez eux, Eh bien, le service dans le village, que ce soit l'école, qui est une forme de service, ou l'épicerie, n'auront pas la même valeur. Si les gens restent là pour travailler, ils ne sont pas des chômeurs, ils travaillent. Hein, restent là pour travailler, eh ben l'épicerie, c'est un client qui reste. Hein, et la répartition des gens va complètement changer. Dès l'instant où on va prendre la mesure qu'il n'est pas indispensable de créer ce mouvement, mais de bulldozer de la campagne vers la ville. Parce qu'il arrivera un jour, je vous ai remarqué tout de suite, les 80% de l'espace rural, ils seront vides. Et qu'est-ce qu'on en fera à ce moment-là? Combien ça coûtera? Ça, c'est affolant.
Parce qu'on a mis beaucoup d'argent, par exemple, la politique de la ville.
Totalement, et on continue.
On pourrait faire un grand plan Marshall pour les campagnes françaises.
Je ne demande pas ça, c'est pas, honnêtement, j'ai pas pensé à.
Enfin, il y a plus d'argent dans les caisses de l'État.
Il y a simplement le fait que il faut que les campagnes retrouvent une raison d'exister. Si un monsieur X ou une madame X, trouve un certain bonheur à travailler depuis sa table de salle à manger plutôt que depuis son bureau dans un immeuble parisien, la salle à manger étant située dans un petit pays comme ça, moi je trouve que c'est très bien. Or c'est elle et ce sont elle et lui qui sont les clients de l'épicerie. Elle existera ou elle n'existera pas selon ce qu'ils vont faire. Donc c'est pas un plan Marshall qu'il faut. C'est une évolution des états d'esprit.
Alors on en reparle après une dernière pause musicale avec notre invité Didier Cornaille. Je rappelle le titre de son dernier roman paru aux presses de la Cité, donc Les Pierres s'en souviennent. Et je mentionne aussi la réédition de Autun, toute une histoire en partenariat avec le magazine associatif Vent du Morvan. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion. On revient juste après la virgule musicale que nous vous proposons et nous allons écouter Ridan. Le titre, c'est Ulysse. On y reconnaît d'ailleurs le poème de Joachim du Bellay, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. On revient dans quelques minutes.
Fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là, quiconque il a toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents, le reste de son âge, quand reverrai-je hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison, reverrai-je le clown. Je fumais la cheminée et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village? Je fumais la cheminée et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison? Qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains, le front tout d'acier. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin, et plus que l'air marin la douce angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre ou une il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Et quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Je fumais la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je?
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Ulysse, interprété par Ridan sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec notre invité Didier Cornat. Je rappelle que son roman a paru il y a 2 jours, tout nouveau roman intitulé Les pierres s'en souviennent. C'est aux presses de la Cité. Didier Cornat, juste avant d'entendre Ulysse, ce poème de Lubellet, ce sonnet bien connu. Ce changement de cycle dont il est question, votre agriculteur Stéphane Bordier explique effectivement qu'à une époque, finalement dans les campagnes françaises, on vivait en village clos, chacun cultivait ses légumes, chacun avait un petit peu de bétail, mais c'était suffisant pour faire vivre la famille. Vous expliquez qu'effectivement, il y a eu ensuite, tout ça a éclaté. Et donc, on a quitté les campagnes, parce que l'industrie au 19e siècle avait besoin de main-d'œuvre. Donc les campagnes ont commencé à se vider. Mais aujourd'hui, Didier Cornat, les industries, bon, on sait qu'il y a beaucoup de faillites, il y a beaucoup d'usines qui ferment, malheureusement, c'est pas toujours réjouissant pour l'avenir du pays. Que peut devenir la population de la campagne, surtout si elle est jeune? Les plus anciens peuvent y apprécier le calme, une jolie maison et peut-être une agréable retraite, mais les plus jeunes, qu'est-ce qu'on peut leur proposer à la campagne?
Mais de venir avec leur travail. Oui, si leur travail ne les oblige pas physiquement à être là-haut dans la ville, s'ils peuvent revenir avec leur travail comme les télétravailleurs, eh bien, ils sont heureux à la campagne. Et eux, étant à la campagne, ils vont faire vivre l'épicier.
C'est-à-dire que ce que dit Stéphane Bordier, l'agriculteur, dans votre roman, il dit aujourd'hui, on sait ce qu'on perd, mais pourquoi on ne croirait pas à ce qui va nous sauver?
Voilà. Ce qui va nous sauver, c'est une évolution de ce comportement jusqu'à, pendant très longtemps, disons, allez, globalement depuis, même avant la guerre, dans les années 1920, où on a commencé à dire qu'il n'y avait de salut, il n'y avait de salut qu'à la ville. Et on a foutu le camp en masse à la ville.
Alors qu'aujourd'hui, on voit les gros problèmes d'insécurité, de pollution, et puis etc. les gens s'y sentent mal dans les villes.
S'y sentent mal. Et là, justement, les gens s'y sentent mal, et surtout qu'ils sont tassés de façon insupportable, on commence à leur dire, mais vous pourriez, ce que vous faites là, vous pourriez aussi bien le faire depuis chez vous. Eh ben, pourquoi pas? Et ils y reviennent, voir le succès du télétravail. Au point que les entreprises, maintenant, sont obligées de calmer parce qu'elles n'arrivent plus à gérer. Mais ça, c'est plus ponctuel qu'autre chose.
Le Morvan, qui, je rappelle, couvre 4 départements. Hein, c'est une entité géologique.
Une partie des quatre
départements de la Bourgogne. Le Morvan a 3 grandes richesses. Le bois, immense réserve d'eau, notamment pour Paris. On est d'accord, Didier. Hein, et puis, il y a des gisements de minéraux qu'on n'exploite pas. Il y a de l'uranium dans le sous-sol morvandiau.
Oula,
il y a de la fluorine. Et j'aimerais bien.
La fluorine, on n'en a plus besoin.
Et je souhaiterais tout de même, justement, que vous apportiez un commentaire sur.
La fluorine, Anneau, c'est ce que c'est, puisque ça a été un peu le centre avec la petite verrière à côté, des grandes mines de fluorine de la fin du 19e, qui aidaient à augmenter la température des hauts fourneaux, aux coques du Creusot. Bon, un jour, on a inventé les hauts fourneaux électriques. De ce jour-là, on n'a plus besoin de fluorine. Je schématise, mais c'est ça. Hein.
Et l'uranium, alors?
L'uranium, il y en a. Il y en a comme un peu partout. Hein. Mais il y en a, c'est ça. On l'a exploité, d'ailleurs. Il y a eu des mines d'uranium ici au sud. Pourquoi pas? Pourquoi pas dans la mesure où ça tient compte de ce que ça va faire au pays, aussi bien au niveau de la circulation, par exemple, que de la déformation des paysages, etc. Hein? Mais pourquoi pas? Vous savez que il y a une mine de silicium, non, c'est pas ça, quelque chose comme ça, je me souviens plus très bien du nom du minerai, très nécessaire pour fabriquer des batteries. On a trouvé un gisement énorme au sud du Morvan, là. Mais comme par hasard, on nous en parle depuis 3 ou 4 ans, l'exploitation se met jamais en route. Parce que nos pays ne sont plus habitués à ça, ne sont plus structurés pour ça. Il faudra bien qu'ils s'y remettent. Ben oui, c'est une évolution. Les mines d'uranium et les mines de fluorine, j'ai écrit d'ailleurs là-dessus. Hein. On n'a pas envie de les voir revenir. On n'a pas envie parce que c'est pas agréable. Mais peut-être que ce sera nécessaire. Et il faut pas s'arrêter au fait qu'on en ait envie ou pas envie. Il y a une nécessité. Cet uranium, si on en a besoin. Moi, je me souviens d'un groupe de cavaliers randonneurs, comme je pilotais pas mal de randonnées, que j'ai sidéré un jour en m'arrêtant dans un chemin. On était à pied devant nos chevaux. Un chemin pas loin d'ici, au Chêne-Lay, là, tout près d'ici. Je suis arrêté, j'ai regardé ça. C'est de l'uranium. Le gars, il m'a regardé, non, mais ça va plus la tête. Et c'était cette pierre jaunâtre, faite de fibres, que les géologues reconnaissent très bien. Dans un chemin, là, juste à côté, c'était du minerai d'uranium. Ça a un nom précis qui m'échappe, mais ça importe peu. C'était minerai d'uranium, ils en sont pas revenus. Mais oui, il y a de l'uranium. Bon, bah très bien, il y a de l'uranium. Il faudra bien qu'on l'exploite si on doit exploiter, avec la réserve que vous sentez dans ma voix. Mais on n'a pas le choix. Est-ce qu'on a le choix? On est dans une société ou pas? Il faut qu'on vive avec cette société. On peut pas dire, nous on est dans le Morvan, alors on n'en veut plus. C'est pas possible. En revanche, si on dit, bon bah on en supporte les conséquences. On doit les supporter jusqu'au bout, c'est-à-dire aussi dans leur bon côté. Hein. Et ça doit nous ramener quelque chose, nous rapporter quelque chose.
Alors, à La Rudelle, donc le village fictif de votre dernier roman, Les pierres s'en souviennent, à La Rudelle, le fils de Stéphane Bourdier est plein d'enthousiasme. On l'a dit, il veut reprendre l'exploitation paternelle. Et hors de question pour lui de quitter la campagne. Il veut y rester. Il y a grandi. Il veut y rester et il veut continuer à faire prospérer l'entreprise paternelle en dépit des logiques productivistes.
En dépit des logiques. Tout à fait. Votre expression est très juste.
Alors lui, il a quand même la volonté de réhabiliter. Alors un moulin dont l'activité a été abandonnée parce que les propriétaires ont investi dans une auberge et un hôtel.
Oui. Oh, puis alors, parce que ça se faisait plus d'être meunier dans un petit pays. Il y avait des gros meuniers dans le coin qui fournissaient ça. Et on a abandonné le moulin. On fait venir du blé de Pétaouchnok par camion, ce qui est extrêmement polluant, pour le faire passer dans les meules de ce moulin qui, lui, est un petit village. Et du coup, ça devient de la farine écolo.
Bio. Oui,
bio, voilà le terme.
Mais le moulin, c'est que le système qui écrase les grains pour faire la farine, c'est un moteur diesel.
C'est un moteur diesel, ce qui est complètement anti-bio, si vous voulez, complètement.
Et ça, c'est dans le roman, mais c'est aussi un élément de réalité.
Mais bien sûr,
on produit de la farine avec estampillé le logo bio,
parce que
un moteur diesel.
Parce que le blé est d'une variété qu'on dit bio, même si ça a été transporté depuis Pétaouchnok par des camions, ce qui est très polluant, et que, encore une fois, le moulin qui jadis marchait par la roue à aube, hein, maintenant il marche par un moteur diesel.
Mais la culture bio, le maraîchage bio, on ne peut que l'encourager.
Mais bien sûr, j'ai rien contre. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut revenir de certaines aberrations, mais des exagérations simplement. J'ai rien contre, hein, surtout, faut pas me faire dire ce que j'ai produit.
Alors Didier, on est pratiquement au terme de l'émission. Mais alors là, je voudrais m'arrêter sur une phrase extraite de cet essai que vous avez fait paraître il y a 20 ans et qui a pour titre « Le réveil des villages ». Vous écrivez, vous parlez d'une dame qui en 1979 avait soutenu, elle s'appelle Brigitte Leroy-Lorayère, à l'Université de Paris 8, elle a soutenu un mémoire de maîtrise ainsi intitulé « Un parc naturel régional, le Morvan, ou comment un environnement protégé peut voir se révéler contradictoire le développement de ses atouts. » Et un peu plus loin, vous écrivez « En bref et sans fioriture, le Morvan, pour être utile à quelque chose, doit être vidé de sa population. Ça, c'est ce qui a été voulu par les têtes pensantes au plus haut niveau national du pays. Pas régionalement.
L'ont-elles voulu consciemment, je ne suis même pas sûr. Je crois que c'était dans la logique, quoi. Le Morvan, il produit rien. Hein, du bois, on n'a pas besoin des hommes pour produire le bois. Le bois, il pousse tout seul. Hein. Les vaches, elles profitent mieux ailleurs. Donc, les hommes, ils vont quitter le Morvan. Mais ça n'a pas été un acte délibéré, si vous voulez. C'est une conséquence de tout le reste.
Alors,
on en revient.
La voie du tourisme est tout de même exploitée.
Là, on n'en parlait pas. Quasiment pas.
Dans le roman, Fred, il a quelques idées sur le développement du tourisme.
Oui, tout à fait.
Mais Anneau a connu, dans les années 1910, peut-être même au-delà, un certain prestige touristique.
Oui,
il y avait beaucoup d'hôtels.
Surtout l'hôtel Guyard qui a eu sa réputation. Bon, situation assez particulière. Début du tourisme, mais pour une classe sociale assez élevée. Hein, c'était pas pour n'importe qui.
Et les ouvriers, premiers congés payés du Front populaire.
Les Sétons qui étaient juste à côté, qui étaient très à la mode. Pourquoi? Parce que à échelle des voitures de l'époque, c'était une étape, les Sétons. Et Anneau se distinguait un peu des Sétons en disant, nous, on a un tourisme, ils n'appellent pas ça le tourisme, d'ailleurs, ça, les vacances populaires, je ne sais pas, pour une certaine catégorie de personnes, et a acquis une image relativement luxueuse, c'est pas le terme, enfin, côté quoi, du tourisme en Morvan. Mais ça a été assez ponctuel, ça. Hein. Ça n'a pas amené loin. Hein.
Alors, entre sauvegarde du patrimoine et vivre ensemble entre locaux et citadins, votre dernier roman, donc plein de sagesse sur le devenir de nos campagnes, je rappelle, c'est « Les pierres s'en souviennent ». C'est aux Presses de la Cité et c'est sorti il y a 2 jours. Merci. Il est temps que l'émission s'arrête. Je commence à avoir des problèmes d'élocution. Cher Didier, merci d'avoir été devant notre micro. Samedi prochain, 21 février, vous la connaissez.
Ah, la Mutine. Pardon, Marie-Thérèse Mutin.
C'est Marie-Thérèse Mutin qui sera devant notre micro. Elle a créé il y a 30 ans, en 1995, les éditions Mutine. Une maison d'édition associative installée en Côte d'Or et nous proposerons une émission que nous avons enregistrée en public à ce mur en Aussois, en Côte d'Or, dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons. Bon congé de fin de semaine, Didier Cornaille. Les pierres s'en souviennent, décidément. C'est aux Presses de la Cité. On retrouve notre émission en podcast sur yannickpetit.fr. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir. Merci encore Didier. Et à samedi prochain sur Radion.
C'est moi qui vous remercie Yannick. Je suis tellement content de pouvoir parler avec vous toutes ces choses-là et puis d'expliquer un peu ce qu'on veut faire.
Merci Didier. Au revoir et à bientôt.
À très bientôt.
D'un autre ouvrage.